Chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu en ce début d'année et en ce sabbat. Le sabbat, pour nous, c'est un jour qui rappelle le commencement, des commencements, où Dieu a créé notre monde et il l'a fait en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Le 7e nous permet donc de penser à ce commencement, au fait que nous sommes œuvre de Dieu, que Dieu nous aime et que si nous sommes là par amour. La première chose que je voudrais dire en ce début d'année, c'est que Dieu aime chacun d'entre nous, que tous nous comptons pour Dieu, que nos vies sont des vies qui comptent. Et donc, attendez, c'est le titre du message, des vies qui comptent, des vies qu'on raconte. Nos vies comptent, vous comptez aux yeux de Dieu, nous comptons aux yeux de Dieu. Dieu nous aime et il prend soin de chacun d'entre nous. En dépit de ce qui peut se passer dans notre histoire personnelle, dans l'histoire de notre nation, des peuples, de notre vie sur cette planète, nous avons un Dieu qui, là, est proche de chacun d'entre nous et qui veille sur chacun d'entre nous. Ça me rappelle les paroles de James Russell Lowell qui dit « In the dim of the unknown » We have a God that is in the shadow and that watch on every watch, which every one of his own. Alors, je traduis à peu près. Dans l'obscur inconnu, nous avons un Dieu qui se tient dans in the dark shadow, dans l'ombre, on va dire. Et qui veille sur chacun des siens. Voilà ce qu'il dit dans un magnifique poème. Je ne voudrais pas vous réciter tout ce poème, parce qu'il est assez long, mais je pense à ce poème ce matin pour vous dire que nous tous, nous comptons. Et Dieu veille sur chacun d'entre nous. Il nous aime et il vous aime. Et vous savez, quelquefois, quand on regarde sa vie, quand on regarde ce qu'on est, ce qu'on a fait, quand on regarde toutes les nuances qui sont dans nos vies, les bonnes, les belles couleurs, les mauvaises couleurs, le laid, le beau, des fois on a un peu honte de soi. Et si on regarde l'année passée, peut-être qu'on a beaucoup de faillites pour cette année, beaucoup d'échecs, mais il y a aussi des réussites, c'est vrai. Mais souvent ce qui est un peu noir dans nos vies, nous le portons et c'est lourd. Et j'aimerais vous dire que vous avez un Dieu, que nous avons un Dieu qui nous aime. Ça me rappelle cette histoire d'un homme qui avait un problème de couple et avec lui et son épouse sont venus voir le psy et il devait d'abord par lui-même écrire son histoire, ne rien cacher, dire tout le laid, tout le beau. Et finalement, quand il a écrit cette histoire, en étant honnête envers sa propre conscience, mais aussi honnête devant Dieu, il devait le dire à son épouse. Et quand il est là en train de parler et de le dire à son épouse, de raconter son histoire, il n'ose même pas regarder son épouse des yeux, la tête baissée, il lit son histoire. Et là, il racontera plus tard, j'ai senti une étreinte, celle de mon épouse. Et il dit, je savais que j'étais aimé, mais c'est la première fois que j'ai ressenti l'amour de mon épouse. La première fois que je me suis senti aimé. Et j'aimerais que nous puissions aussi nous ressentir aimés. Dieu nous aime. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. En ce début d'année, j'ai choisi de vous parler du psaume 90, du psaume 90. La prière de Moïse, l'homme de Dieu. Alors, pour vous donner un peu le contexte, pour ceux qui connaissent un peu comment le livre des psaumes est fait, je n'arrive pas à voir la suite, voilà, ok. Donc, le livre des psaumes, c'est comme la Torah. La Torah, c'est 5 livres, le Pentateuque. Vous connaissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bien, le livre des psaumes a été divisé en 5 livres, et vous êtes ici au psaume 90, au 4e livre des psaumes. Et quelque part, ça correspond un peu à l'histoire du livre des Nombres. Vous vous rappelez, c'est ces gens qui ont dû passer 40 années dans le désert, la première génération de ceux qui ont été sauvés, délivrés, et puis ils ont passé 40 ans dans le désert. Ok, merci, c'est pas grave. Ok, 40 ans dans le désert. Et si je regarde bien le livre des Nombres, ici j'ai un Moïse qui écrit. Prière de Moïse, l'homme de Dieu, Ish ha-Elohim. Cette expression pour désigner Moïse n'est employée que dans Deutéronome, le chapitre 33, le verset 1. Là, il est dit que Moïse, je vais lire le texte plus précisément, et cela indique le moment où il écrit ce texte. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, Ish ha-Elohim, la même expression, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc il y a un certain marqueur temporel qui est là vers la fin de sa vie. Et cet homme qui a quand même vécu jusqu'à 120 ans regarde et puis il fait le bilan un peu de cela et qu'est-ce qu'il demande à Dieu. Alors effectivement, il n'écrit pas pour lui, il écrit pour la nouvelle génération qui va venir. Et il va, alors je vais, juste avant de commencer, puisque, bon, peut-être que je vous donne la structure du texte. Alors, voyez, le quatrième livre des psaumes commence avec le psaume 90 et se termine avec le psaume 106 qui est une histoire, l'histoire d'Israël. En fait, il y a deux psaumes, le psaume 105 qui montre l'histoire d'Israël vue par le regard de Dieu, sous l'aspect grâce du Seigneur. Et c'est vrai qu'on ne parle pas, pendant cette période-là, c'est le Dieu de l'Alliance, et on ne parle pas, effectivement, de ces 40 ans du désert. Mais dans le dernier psaume, le psaume 106, on met le projecteur sur Israël. Dans l'Alliance, il y a Dieu. Le psaume 105 montre ce que Dieu fait. Et le psaume 106 montre un peu ce que cette génération a fait, les 7 rébellions du psaume. Alors voyez que la majorité des textes sont tirés du livre des Nombres et aussi du livre de l'Exode, parce que Nombres et Exode, dans la structure du Pentateuque, se correspondent. D'accord ? Et vous avez par exemple des épreuves dans le livre d'Exode, vous avez l'épreuve des cailles, vous aurez cette épreuve des cailles aussi dans le livre des Nombres. Vous avez les tentations des épreuves qui vont, malheureusement, les enfants d'Israël vont perdre ces épreuves et puis ils vont encore les reperdre une deuxième fois. Mais ceci dit, revenons à notre psaume qui commence. Et dans le psaume 4, par exemple, nous allons étudier le livre, l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux va faire un commentaire sur un des psaumes qui se trouve dans ce livre-là, dans le quatrième livre, qui est le psaume 95. Et va faire l'expérience justement de cette génération du désert qui n'est pas entré dans le repos, même s'ils sont entrés en Canaan, la terre promise. Enfin, ils ne sont pas eux entrés dans la terre promise. C'est vrai, c'est la deuxième génération qui est entrée, mais le texte nous dit, voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés, à cause de leur manque de foi. L'Épître aux Hébreux nous parlera de cela. Vous voyez que avec ce texte des psaumes, je fais le lien entre la leçon du Deutéronome qui parlait de Moïse et notre texte du guide qui est l'Épître aux Hébreux pour ce trimestre. Revenons à notre texte. Le psaume est divisé en trois sections. La première va parler de Dieu et de l'homme. On nous dira que ce Dieu que nous avons est une demeure et que sa vie, bien, est éternelle. Tu es Dieu, tu as toujours été une demeure, un refuge, dit notre texte ici. Je reviendrai là-dessus. Puis à l'homme, il dira, retourne à la poussière. Je reviendrai aussi dessus. Donc on voit cet homme qui est, ce Dieu, pardon, qui est éternel, et puis l'homme vulnérable, le Enosh, le mortel, comme souvent on le traduit. En fait, le vulnérable. Eh bien, on verra cela, cette différence. Et pourquoi cet appel de Dieu à cet homme ici? Au centre, il y a la colère de Dieu. Les versets 7 à 11 sont encadrés par les deux mots colère, colère. Et le mot colère se retrouve avec deux autres termes comme fureur, courroux, dans la version que j'ai choisie, celle de la Tob que je vais un peu modifier. Et puis, vous avez donc, l'accent est mis sur la colère à cause de nos péchés, à cause du péché. Je reviendrai dessus. Est-ce vraiment que Dieu est un Dieu colérique? Ou est-ce une projection humaine de notre ami Moïse? J'en viendrai. Puis, la dernière partie, c'est la requête de celui qui prie. Apprends-nous à bien compter nos jours. Pour que nous ayons des jours qui soient pleins, des jours qui comptent, pour que notre vie compte et qu'on puisse ensuite la raconter. Ça me rappelle le livre, le texte de Job, dans Job 31, le verset 29, si je ne m'abuse. Il dit, je reviendrai sur ce texte, Tzadai, Mispar Tzadai, a guidé nous. Le nombre, le compte de mes pas, je le raconterai. Voilà ce qu'il est dit dans ce texte ici. Je reviendrai dessus. Alors, avant de commencer et d'entrer dans la première partie de ce texte-là, les versets 1 à 6, j'aimerais juste raconter une histoire, peut-être que je raconte deux, que l'une, c'est mon père qui me l'a racontée et l'autre... Je l'ai raconté aux enfants aussi, parce que je l'ai trouvé aussi. Alors voilà, la première histoire, c'est un homme qui, le jour de l'an, arrive devant la maison d'un riche et dépose une valise. Il frappe à la porte et il dit, je voudrais passer le jour de l'an ici, chez vous. Alors l'homme est interloqué et il demande, mais écoutez, ici ce n'est pas un hôtel. Vous êtes chez moi. Et le Tchnoer, le pauvre qui est là, le pauvre juif qui est là, parce que ce sont deux juifs en fait, et il lui dit, écoutez, vous dites que vous n'êtes pas un hôtel. Bien, dites-moi, avant vous, qui habitait ici? Alors il a dit, mon père. Et avant votre père, mon grand-père, puis ainsi de suite, il lui dit, bon, alors, c'est une maison où on ne fait que passer. Si on ne fait que passer, c'est un hôtel. C'est vrai que, en réalité, nous passons, c'est vrai. Nous trépassons et nous laissons la place à d'autres. nous ne faisons que passer sur ce, dans ce monde dans lequel on est. Et c'est souvent ça que nous disons à nos enfants et à nos amis. Nous sommes de passage, n'est-ce pas? La deuxième histoire, c'est une histoire, celle-là c'est mon père qui me l'a racontée. C'est l'histoire des hommes. Un roi dans un pays, je ne sais pas lequel, dans des temps immémoriaux, donc je ne m'en rappelle pas. Voilà l'histoire. Un roi vient d'être nommé et de prendre son trône. Il vient d'être intronisé. Il a 40 ans. Alors pour bien faire, il appelle le ministre et il lui dit, écoute, j'aimerais avoir une petite idée de l'histoire des hommes avant de pouvoir commencer à pouvoir bien gérer mon royaume. Alors bien sûr, vous savez comment ça se fait, le ministre rassemble beaucoup de sommités, des historiens, des universitaires. Bon, à l'époque, c'était pas comme nos universités, mais c'est pas, il y avait. Alors, les gens vont se mettre à écrire ou à rassembler tous les ouvrages. Et au bout de 20 ans, il y a des chameaux qui arrivent, remplis de livres. Il y a à peu près une dizaine de chameaux avec énormément de livres dans leur cabas. Et on présente cela au roi. Dit, maintenant j'ai 60 ans, j'ai pas le temps de lire tous ces livres-là. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner un livre qui fasse un peu un résumé de tout cela? Bon, alors ils se remettent au travail. Et puis, 20 ans plus tard, vous voyez le temps passe vite, 20 ans plus tard, on lui ramène un gros livre. Et on lui dit, voici l'histoire des hommes. Il est sur son lit et il est très faible. Il ne sait pas s'il va vivre très longtemps. Il regarde le pavé et il dit, je vais donc mourir sans savoir quelle est l'histoire des hommes. Et son ministre s'approche de lui et lui dit, vous voulez connaître l'histoire des hommes? Elle est très simple. Ils naissent, ils vivent et ils meurent. Voici l'histoire des hommes, telle qu'elle est racontée par ce conte. Alors c'est un conte. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il y a une histoire qui a changé la donne. Une histoire qui nous permet de vivre autrement. Une histoire que nous avons vécue tout récemment. C'est la période de Noël, vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'histoire de Jésus. Un homme, Jésus, a changé notre histoire. Mais avant d'aller plus avant, revenons à notre texte et lisons les versets. Alors, oui, c'est trop petit pour mes yeux là, et je vais essayer de lire dans cette version ici. Seigneur, d'âge en âge, tu es notre demeure. Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais revenir l'homme à la poussière. Ça, c'est la version de la Tob. Et j'ai changé, je reviendrai là-dessus. Car tu as dit, fils d'Adam, revenez. Que 8000 ans à tes yeux sont comme hier. Et un jour qui s'en va, ou comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit, ou une veille de la nuit, littéralement. Tu les balayes pareil au sommeil. Et je laissais la taupe telle qu'elle est, qui au matin passe comme l'herbe, pour dire qu'au matin, le sommeil, eh bien, ça disparaît aussi. Et fleurit le matin, puis elle passe. En réalité, c'est le même verbe passer qui est ralaf, mais qu'il faut traduire ici, elle pousse au matin. Et elle se fane sur le soir et elle sèche. Alors, c'est un poème. Alors, il y a beaucoup de jeux et je ne pourrai pas vous expliquer la beauté du poème, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est dans ce texte-là, comment vous avez une opposition, vous avez d'abord un locuteur, un seul, qui parle, c'est Moïse. Et il parle en employant le « nous ». D'accord ? Et il s'adresse à Dieu en lui parlant, en disant « tu ». « Tu es Dieu ». Voyez, tu es notre demeure, le « nous » est là. Et je continuerai encore, il parle aux hommes, alors il fait parler Dieu dans cette phrase au centre, dans cette partie centrale, « Tu fais revenir l'homme, je reviendrai là-dessus ». Voilà la première des choses. Dieu est présenté comme étant de toute éternité. Dieu est le souverain, il est au-dessus de tout. Alors on a l'impression qu'on est en train d'opposer Dieu et l'être humain vulnérable, mortel. Surtout si on traduit « tu fais revenir l'homme à la poussière ». Ça rappelle les termes de la condamnation du premier homme. Vous vous rappelez ? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, c'est vraiment tranchant. Vous avez dans cette opposition-là, vous avez donc Dieu qui est souverain, qui est éternel, transcendant. Et puis vous avez un homme fragile, vulnérable. Oui, c'est vrai que nous sommes vulnérables. Regardez ce qui est dit à la fin. Nous fleurit, c'est comme l'herbe qui pousse. Hein? Le matin, elle est là et le soir, elle n'est pas là. D'accord ? C'est vrai. Mais il y a dans cette phrase deux choses. Dieu est notre demeure. Quand Moïse emploie cette expression, Dieu est la demeure, c'est pour parler, c'est toujours par exemple dans Deutéronome, le chapitre 32, c'est la même expression, Maon, qui est employée, le verbe Maon. Et vous allez voir un autre mot à la fin du psaume, qui est un mot miroir. Vous mettez Maon devant un miroir et vous avez l'envers. Et c'est le mot douceur. Mais je reviendrai tout à l'heure avec cela. Revenons sur Deutéronome 32. Il est question de... Là, il est question de Dieu qui est la demeure. Les versets 1 et suivants, tout cela. Il y a un texte qui dit « Tu es notre demeure » et le verset dit « Sous lui, ses mains éternelles. Underneath are the everlasting arms. » Excusez-moi, je rappelle le verset en hébreu, je rappelle le verset en anglais, je ne me rappelle plus en français parce que la version de la NBS a changé le texte. C'est ce verset qui a donné ce chant anglais, Leaning on the everlasting arms. Est-ce que vous connaissez, pour certains? Leaning on the everlasting arms. S'appuyer sur les bras éternels de Dieu. Sous lui sont les bras éternels de Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Cet homme qui étreint son homme, son mari, et le mari qui se sent aimé. Dieu est un être d'amour qui nous aime. Il est un Maon, il est un foyer, il est une demeure. On a traduit par comme si c'était Maoz, refuge. C'est pas faux. Dieu est un refuge, et ça c'est important, mais il est surtout un foyer d'amour, un nid d'amour pour chacun d'entre nous. Et on peut se sentir aimé. Ce n'est pas tant une parole de, quand il est dit « tu fais revenir l'homme à la poussière », ce n'est pas tellement une parole pour pouvoir condamner l'homme et pour dire que l'homme est condamné. Et il dit, alors la version de la Tob disait « fils d'Adam, retournez-y, retournez à la poussière ». Daka, le terme qui est employé pour parler le Daka, est traduit dans un petit dico que j'ai avec moi dans mon sac, dans un petit dico de Marchand Énéré. Daka est traduit par contrition. Et c'est pourquoi j'ai mis contrition. Ça veut dire, vous voyez, c'est le mot qui se trouve par exemple dans Ésaïe chapitre 57. Verset 15. Car ainsi parle celui qui est haut placé, élevé, qui demeure à jamais et dont le nom est sacré. Chouraki traduit celui qui est élevé, le mot Ram, il le traduit par le transcendant. Oui, c'est vrai, ce texte parle de la transcendance de Dieu et de la transience de l'être humain. C'est un mot que les théologiens emploient des grands mots, hein, excusez-moi. C'est un mot qui signifie simplement que nous ne faisons que passer sur cette terre. Alors que Dieu est transcendant, il est élevé. Continuons. C'est dans une hauteur sacrée que je demeure avec celui qui est Daka Veshefel War, qui est écrasé et dont l'esprit est abaissé. Voyez, ce Dieu qui est transcendant aime habiter et demeurer avec ceux qui sont conscients de leur faiblesse. Avec celui qui se sent petit, à celui qui est abaissé, à celui qui reconnaît ses erreurs et qui se retourne vers Dieu. Voyez, ce psaume-là, en fait, est un psaume de repentance. Je reviendrai, je vous dirai pourquoi. Mais ici, il est dit ici simplement, dans ce texte, il y a une invitation à se tourner vers Dieu. Vous connaissez le psaume 51, c'est un psaume de David. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 51. Le verset 19. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Voyez, c'est cette humilité de Dieu, bien que transcendant, qui voudrait habiter avec ceux qu'il aime, avec chacun d'entre nous. Il veut être Dieu avec nous. En fait, Moïse, quand il a écrit, avait-il vraiment conscience que Dieu, un jour, s'incarnerait et réaliserait la prière du Job qu'il a écrit? Certainement. Parce qu'il écrit, voyez ce que Job écrit dans le texte, c'est ceci. Job, chapitre 10, le désir de Job d'avoir un Dieu qui le comprenne. Souvent, la distance qui nous sépare de Dieu fait que souvent, nous avons l'impression que Dieu ne nous comprend pas. Nous sommes des êtres de chair, d'argile, fragiles. Nous sommes vulnérables, faibles. Nous avons des soucis. Dieu là-bas, là-haut, peut-il être proche de moi et avoir et comprendre mes soucis? As-tu des yeux de chair, verset 4, vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel? Tes années comme les jours d'un homme? Nous avons la réponse ici, hein. Voyez, pour que tu cherches ma faute, pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant que bien que je ne sois pas un méchant et que personne ne délivre de ta main, souviens-toi, je t'en prie, que tu m'as fait comme avec de l'argile. Dieu se souviendrait-il pas que en ce sabbat, en ce jour qui nous rappelle et où nous commémorons justement le commencement des commencements, que nous sommes des êtres d'argile, ne voudrait-il me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Ne m'as-tu pas... Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de tendons. Et quel était le désir de Job? Que Dieu puisse s'incarner, que Dieu puisse vivre une vie d'homme pour comprendre nos douleurs et notre souffrance. Il disait dans Job 9, le verset 39, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui puisse poser sa main sur nous deux. » Voyez, il n'est pas un homme comme moi pour que je sois consolé, dit-il au verset 32. Un peu plus tard, il dira que son désir, c'est d'avoir... C'est Dieu que j'implore avec larmes, puisse-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu. entre l'être humain et son ami céleste, j'ai ajouté céleste, et son compagnon, traduit-on, mais le texte ici, le parallèle, c'est Dieu, c'est l'homme d'un côté, et Dieu, l'être humain, et le compagnon, l'ami, c'est Dieu. Dieu est celui qui nous aime. Jésus dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami. Dans le même endroit où il dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans l'amour. Demeurez dans l'amour. Il avait dit un peu plus loin, au début de ce chapitre 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dieu est ma demeure, il est mon foyer, il est mon amour. Et si Dieu est en moi, c'est un foyer d'amour qui est à l'intérieur là. C'est dans l'âtre de mon cœur, c'est ce feu d'amour qui doit brûler pour chacun de ceux que je côtoie. Revenons à notre psaume ici. Tu fais revenir l'homme à la contrition, car tu dis, fils de l'homme, chouvou. Chouv, c'est la racine de teshuva, c'est la racine de la repentance. Et en Israël, il y a une association qui s'appelle chouvou, c'est-à-dire revenez à la maison pour parler des Israélites, pour qu'ils puissent être des olim, des migrants, pour qu'ils puissent venir. Revenez à la maison, revenez au foyer. Eh bien, ce que Dieu dit aux êtres humains, c'est revenez, venez à la maison. J'ai un cœur. La maison, c'est là où je suis. Voyez, un foyer, c'est là où vous avez quelqu'un qui vous aime, n'est-ce pas? Si vous revenez à la maison, même s'il y a un papa et un maman qui abusent de vous, ce n'est pas un foyer, n'est-ce pas? Un foyer est un endroit où on se sent accueilli. Dieu est celui qui nous accueille. Voyez, j'essaye de vous faire lire ce texte de manière un peu différente. Je vais essayer d'aller un peu plus avant. Parce qu'au centre du texte, on peut faire passer la deuxième, 7 à 11, on a cette expression, oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, devant ta fureur s'effacent tous nos jours. Le temps d'un soupir, nous avons achevé nos années. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie, 80 si elle est vigoureuse. Et son agitation n'est que peine et misère, c'est vite passé et nous nous envolons. Qui peut connaître la force de ta colère? Puis, plus on te craint, mieux on connaît ton courroux. Moïse, ta colère. Est-ce de ta colère que tu parles ou de celle de Dieu? Vous vous rappelez un moment, les enfants d'Israël, ils sont là, au pied de la montagne, en train de faire le veau d'or. Vous vous rappelez l'épisode? Et puis Dieu dit à Moïse, regarde, en bas, ils sont en train de faire un veau d'or. Ils sont en train de s'éloigner de moi. Ils brisent ma Torah. Et Dieu dit, bon, je vais me mettre en colère. Je vais les détruire, tout ce peuple. Et je vais remplacer ce peuple. Je vais faire de toi le père d'une nouvelle nation. Et vous vous rappelez ce que Moïse dit? Exode 32, qui se rappelle de ce que Moïse dit dans « Efface-moi du livre de la vie ». Oui, il verra cela, vous voyez, il a tellement, malgré ce que le peuple fait, il est en sympathie avec son peuple. Et il veut sauver ce peuple, et il veut intercéder pour ce peuple-là. Et je me dis, est-ce que vous pensez que Dieu voulait vraiment détruire ce peuple et en finir avec eux? Et Exode, chapitre 32, je vous le lis. Pardon, excusez-moi. Reviens, c'est verset 12. Et vous voyez, il y a tout. Moïse chercha à apaiser Dieu, à apaiser le Seigneur, son Dieu. Or, c'est lui qui écrit, hein, et qui dit, moi, j'ai essayé d'apaiser Dieu pour vous. Hein, le Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il dira ici? Reviens de ton ardente, de ta colère ardente. Renonce au mal. C'est le mot qui est traduit, qui sera traduit par aviser, dans un peu plus loin. Dans la dernière partie, renonce, repens-toi, demande-t-il à Dieu. Pensez que Dieu a besoin de se repentir, et c'est ce qu'il est en train de dire. Renonce au mal que tu voulais faire à ce peuple. Souviens-toi, Moïse. Mais quand il arrive près du peuple, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va se mettre en colère, il va casser la table de pierre, etc. Le colérique, c'est bien notre ami Moïse. Et c'est bien une projection qu'il fait de Dieu. Et Dieu est en train d'éduquer cet homme pour qu'il puisse apprendre la patience. Là, Dieu lui parle d'abord sur la montagne. Il n'a pas encore vu le peuple. Il est tout foi et il parle à foi là. Oui, je raisonne. Non, Seigneur, tu ne peux pas. Il raisonne avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il est tout en toute confiance. Il n'a pas devant lui un Dieu qui est en feu, qui est en rage, et qui va donc, vous savez, quand vous êtes en face à quelqu'un qui a une colère, qui a de la rage, qu'est-ce qui se passe? Elle est souvent contagieuse, n'est-ce pas? Il n'a pas été contaminé par aucune colère de Dieu. Non, non. Il va descendre, et il sera face à cette colère. C'est face à sa propre colère. Alors, je ne dis pas que... Quand on parle de colère, je ne dis pas qu'il n'y a pas la colère de Dieu, mais rappelez-vous, souvent nous parlons de châtiment. Plus tard, vous allez voir ce texte-là, dans le texte. Mais depuis que nous avons l'histoire de Job, nous savons que nous pouvons être dans des problèmes sans forcément que ce soit un châtiment de la part de Dieu. Jésus va-t-il pas dire, par exemple, en parlant de l'homme aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Alors bien sûr, quand on parlera de Siloé, qu'est-ce qu'il dira? Pensez-vous qu'il soit plus pécheur que les autres? Non. Mais il invite, repentez-vous. Repentez-vous. Il invite à changer de conduite. Parce que c'est vrai. Si nous devons regarder tout ce que dans le secret de nos cœurs il y a de mal ou d'indicible peut-être, mais reconnaissons que tout cela est devant Dieu et qu'il voit tout, il nous connaît, mais il nous aime malgré tout cela, mais il nous invite à venir à lui. Je pourrais encore parler d'autres textes dans Romains chapitre 5, qui parle de l'amour de Dieu et qui nous invite aussi à nous repentir. Est-ce que tu ne reconnais pas que l'amour de Dieu te pousse à la repentance? Mais si tu refuses, rappelle-toi qu'il y a la colère. Bon, bien sûr, ça arrive dans le texte. Mais c'est l'amour de Dieu qui est premier. Voyez, ce qui est au centre de cette guerre, c'est cette colère. Mais souvent, malheureusement, nous oublions que dans ce texte-là, le plus important n'est pas au centre. Il ne faut pas simplement nous focaliser sur nos péchés, sur nous, ce que nous avons fait. Mais le plus important se trouve à la périphérie des textes. À la périphérie des textes. C'est-à-dire, dans la première partie, où Dieu est un foyer, une demeure, un refuge, si vous préférez, vous pouvez garder cette traduction, même si ça fait changer le texte, l'original, mais ce n'est pas grave. Revenons à notre dernière partie, 12. Alors, apprends-nous à compter nos jours, et nous obtiendrons la sagesse du cœur, et nous viendrons de cœur à la sagesse, littéralement. Reviens, Seigneur. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, pourquoi tardes-tu? Ravise-toi, repens-toi, renonce en faveur de tes serviteurs. Ici, dès le matin, rassasie-nous de ton amour. Et c'est le mot recède qui est employé, qui est traduit dans la version que nous avons ici par fidélité. Mais là, j'ai remis le texte, le verset, la recède. Et nous crierons de joie nos jours durant. Rends-nous en joie. Alors, tes jours de châtiment, c'est ce que la Tob traduit. Mais si vous avez Arkodshi, ça signifie, qu'on traduit littéralement, c'est la montagne de ma sainteté, vous dites ma sainte montagne. Quand vous avez le jour de tes humiliations, c'est, les humiliations, les jours de nos humiliations, ce sont nos jours d'humiliation qu'il faut traduire. Et pas les jours de tes jours de châtiment. Ok? Ça change. Il n'y a pas le « tes » dans le texte. Il n'y a pas « tes jours de châtiment ». Je continue ici. Les années que nous avons vu le malheur, que ton action soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, consolide notre, l'œuvre de nos mains. Alors, il y a 12 stiques dans chaque partie, du texte, et le dernier texte ici, on a rajouté simplement le dernier verset a été simplement rajouté, le dernier stick pardon a été simplement rajouté pour correspondre à au titre qui avait été rajouté dans la première partie pour que ce soit bien équilibré. Revenons maintenant à notre texte. Au centre de cette partie, vous avez remarqué cette expression dès le matin. Rassasie-nous de ton amour. C'est notre désir pour cette année. Vous vous rappelez dans le livre de Lamentations, au cœur du livre de Lamentations, alors qu'on parle de la destruction de Jérusalem et qu'on se lamente sur cette ville-là. Lamentations chapitre 3. Lamentations chapitre 3. Laissez-moi retrouver ce texte des Lamentations. Alors, le problème c'est que à force de lire mon texte dans une autre version, dans d'autres textes, Job. Oui, Lamentation, c'est après Jérémie. Je cherchais dans les choses. Voilà, Lamentation chapitre 3. À partir du verset 19, souviens-toi de mon affliction, etc., de l'absinthe et du poison. Je m'en souviens bien, je suis abattu. Mais voici ce que j'ai à quoi je réfléchis. Voici pourquoi je t'attends, ou j'espère en toi. C'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. Grande est ta émouna, ta foi. En fait, c'est le même mot qui donnait foi. Grande est ta constance, ta fidélité, ton amour. Voilà ce qui est dit. Dieu est le bien suprême pour lui. Je dis le Seigneur est ma part, c'est pourquoi je l'attends. Revenons à notre texte ici. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Je vous ai dit je vais prendre le texte de Job. Job dit ceci, Job 31, le verset, Job 31, le verset 37. Alors, le compte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le compte de mes pas, je raconterai. Littéralement, c'est ce qui est écrit ici. Là, il dit, je lui rendrai compte du nombre de mes jours, de mes pas. Je lui rendrai compte du nombre de mes pas. Voilà ce que Job déclare. Il dit, il raconte ce qu'il avait fait. S'il raconte sa vie, il dit, le chapitre 31 raconte cette vie bien remplie. Comment Il avait conclu un pacte avec ses yeux pour ne pas fixer son regard sur une vierge. Et puis, il continue. « Si j'avais méprisé le doigt de mon serviteur et de ma servante, quand ils étaient en litige avec moi, que ferais-je quand Dieu se lèvera? Quand il demandera des comptes, que répondrai-je? Celui qui me faisait dans le ventre de la mère, ne les a-t-elle pas aussi fait ?» Nous avons le même commencement. Nous avons la même histoire commune. Un seul Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai laissé les yeux de la veuve s'épuiser, si j'ai mangé seule ma ration sans que l'orphelin en puisse en manger. Et puis, j'ai guidé la veuve, j'ai été un père pour l'orphelin. Il parle, si j'ai vu le vagabond manquer des vêtements et le pauvre dépourvu de couverture, sans que mes reins m'aient béni, sans qu'il ait réchauffé par la toison de mes moutons, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que, etc. Puis il parle. Il ne s'est jamais réjoui, dit-il, du malheur de son ennemi, ou de celui qui le déteste. L'immigré ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. On n'a pas besoin d'attendre qu'un pauvre vienne déposer ses valises devant nos portes pour nous en occuper. Nous pouvons ouvrir nos portes et nos cœurs et faire que notre maison soit une demeure pour ceux qui en ont besoin. Nous pouvons faire que chacune de nos journées compte. Comment ? Le psaume 95 répond : aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va montrer que ce qui compte, c'est l'aujourd'hui. Si nous voulons avoir des jours qui soient pleins pendant cette année 2022, il est opportun et important de vivre chaque jour à la fois en étant en communion avec Dieu. Voyez, Dieu veut faire de chacun d'entre nous sa demeure. Comment moi qui suis une maison d'argile, comment puis-je vivre éternellement? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas nous dire « retournez à la poussière ». Oh, c'est vrai que nous allons retourner à la poussière. Mais pour certains d'entre nous, et peut-être cette année, nous avons vu beaucoup de proches des nôtres, peut-être de la famille, qui sont partis. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la vie, la vraie vie. Si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Si Dieu demeure en moi, alors je pourrai passer le cap de l'éternité. Une autre manière de le dire, 1 Corinthiens 13, l'amour, ce n'est pas tout à fait la bonne traduction, mais ce n'est pas grave. Nous avons l'habitude de réciter la version seconde, n'est-ce pas? L'amour ne périt jamais. Si nous voulons passer le cap de l'éternité, que nous ayons le Dieu d'amour dans le cœur, et à ce moment-là, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Voyez, que ton action soit visible par tes serviteurs, que ton action soit visible. Alors, j'aimerais que nos actions soient visibles. Voyez, quand Dieu s'adresse à l'église à chaque église dans l'Apocalypse, je connais tes œuvres. À chacune des églises, il dit cela. Puis, à l'une des églises, il dira ceci. Apocalypse, à l'église de Thyatire. Je vais vous prendre ce texte. À l'église de Thyatire, il dit ceci, à la fin de son épître. Il commence par dire, je connais tes œuvres, et c'est l'église qui a la plus d'œuvres, l'église de Thyatire. Excusez-moi. Voilà ce qu'il dit. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Et puis il dit à la fin, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Ce sont nos œuvres qui sont les œuvres de Dieu. Chacun de nous, nous sommes sa poéma, son œuvre, son poème, ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres, mes œuvres, sont en fait, devraient être, l'œuvre de Dieu. Mon histoire devait être, d'une certaine manière, l'histoire de Dieu à travers moi. Jésus, quand il s'est incarné, il est venu pour nous dire l'histoire de Dieu. Après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, Dieu a donné son dernier mot par Jésus. Pardon, pas son dernier mot, je vais dire son avant-dernier mot. Parce que ces derniers mots, c'est chacun d'entre nous. C'est notre vie à nous. Les œuvres, ton action soit visible. Les premiers chrétiens, ils ont conquis le monde parce que les païens, ils étaient peu nombreux, mais les païens qui les observaient disaient, « Oui, voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. L'amour de Dieu dans leur cœur rendait l'action de Dieu visible pour le monde autour d'eux. » Que la douceur du Seigneur, notre Dieu, soit sur vous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Je terminerai après deux choses. Que la douceur de Dieu. Le texte a commencé avec le mot demeure, maon. Si vous mettez ce mot en miroir, c'est le mot noam que vous lisez. M, A, il y a une apostrophe, O, N. Eh bien, Noam, c'est N, O, apostrophe, et puis A, M. D'accord? C'est ça, Noam. C'est en miroir. Dieu, c'est la tendresse. C'est la douceur. C'est le mot qu'a donné Naomi, hein, douceur de l'Éternel, ou ma douceur, selon vous voulez, comme vous voulez. La douceur de Dieu soit du désert, pardon, la douceur du Seigneur soit sur nous. Un peu comme la Shekinah de Dieu était pendant les 40 années dans le désert, au-dessus des enfants d'Israël. Mais souvent, malgré la douceur et la tendresse de Dieu, nous pouvons être comme cette génération, malheureusement, qui erre dans le désert. Que consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Saint Augustin dit, il y a un singulier ici, l'œuvre, c'est parce que toutes nos œuvres que nous pouvons faire sont ramenées à une seule œuvre, parce que c'est la foi qui opère par l'amour. C'est la foi qui opère par l'amour. Or, dit Saint Augustin, et il cite un texte de Jean, or dit saint Augustin, l'œuvre, c'est que vous croyez en celui qui vous a été envoyé. L'œuvre, c'est de croire en Jésus, c'est de vivre la vie de Jésus, c'est d'être habité par Jésus. Et si vous êtes habité par Jésus, votre être, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Votre être ne pourra faire de vous que des hommes et des femmes d'amour. Vos actions seront des actions d'amour. En ce début d'année, l'année vient de se terminer, c'est 2021, il y a une autre qui commence. J'aimerais vous lire un texte qui est écrit par les maires de la place de Mai à Buenos Aires en Argentine. On recommence avec une nouvelle année. Alors voici le texte. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si le triomphe t'abandonne, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, même si la douleur brûle tes yeux, même si on ignore tes efforts, même si l'ingratitude en est le prix, même si l'incompréhension coupe ton rire, même si tout a l'air de rien, recommence. Recommence. Rappelez-vous, Dieu est le Dieu du commencement et il est le Dieu de tous les recommencements. 1 Pierre, chapitre 1er, le texte nous dit ceci, 1 Pierre, chapitre 1er. Vous êtes en effet né de nouveau, né non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Amen.